e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp.
Une agence en pleine transition éthique. Nous revoilà partie avec une nouvelle enquête. Après l'inclusion et l'accessibilité numérique, le numérique éco-responsable, on s'intéresse maintenant à l'entreprise de demain. Si on devait brosser le portrait de l'entreprise de demain, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? En interne, comme depuis l'extérieur. Pour y parvenir, on s'est penché sur les sujets de gouvernance, de management et de communication. Comment l'entreprise de demain s'organise? Comment les équipes sont-elles gérées? Comment se comportent les leaders et les managers? Comment est-ce qu'elles communiquent avec toutes ces parties prenantes? Bref, plein de questions intéressantes que l'on a posées à des experts et expertes de ces différents domaines. Dans cette série, on a rassemblé une grande diversité de profils passionnants et engagés. Une valeur ajoutée énorme pour aborder l'entreprise de demain sous différents angles. Et puis ça nous motive énormément de pouvoir partager nos découvertes et, qui sait, vous inspirer à faire évoluer vos pratiques professionnelles. L'entreprise de demain est bien plus proche de nous qu'on ne le croit. En fait, elle existe déjà. Mais on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez dans cette enquête. On continue notre focus sur les fondements de l'entreprise de demain. Dans ce deuxième épisode, on s'intéresse au management dans les entreprises et au marché du travail. On se penche donc sur le cœur même de l'entreprise, son fonctionnement et ses défis. On est ravis d'observer des évolutions humaines et bienveillantes dans l'univers du management. On parlera aussi des questions d'employabilité et de sécurité de l'emploi. Vous le verrez, on assiste à un mouvement de fond dans notre rapport au travail et à l'entreprise. C'est déjà ce qu'on avait commencé à évoquer dans le premier épisode. Pour explorer ces sujets, on a invité à l'antenne de notre podcast Gaël Châtelain-Berry, chroniqueur, écrivain, conférencier, influenceur LinkedIn et créateur des podcasts Happy Work et Happy Love. Et aussi Karine Trihoulier, entrepreneuse en ressources humaines, fondatrice de son cabinet de conseil Tidabissam et créatrice de contenu sur le monde du travail. Sans plus tarder, rentrons dans les défis de l'entreprise de demain. Place au podcast. Zoomons un peu plus dans ce qui constitue le cœur de l'entreprise, l'humain. Vous l'avez compris, on va parler de management. Et qui de mieux placé pour en parler que Gaël Châtelain-Berry? On a échangé avec lui sur l'évolution de la culture managériale des entreprises. Parce que finalement, l'un des plus grands défis à relever aujourd'hui pour les entreprises, c'est la fidélisation de ses talents. Et on comprend un peu mieux pourquoi, suite à cet échange.
Alors moi j'ai été en entreprise pendant plus de 20 ans et manager quasiment tout le temps, de petites et de très grandes équipes dans des grands médias comme TF1, Canal+, Energy. Puis à un moment j'ai arrêté tout ça avec un constat de dingue, c'est quand je manageais des managers, moi qui croyais que c'était un peu inné d'être bienveillant, c'était inné d'être empathique, c'était inné d'être un manager normal, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une souffrance en entreprise mais de dingue. Et tout seul dans mon petit coin, je me suis dit, ben, je vais essayer de changer ça. Donc, ça a commencé par des articles sur LinkedIn, où j'ai créé le concept de management bienveillant, avec un article qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, le management bienveillant, l'avenir du management, qui est à ce jour toujours l'article le plus lu sur LinkedIn France. S'en est suivi un livre, le premier, Mon boss est nul, mais je le soigne, où j'expliquais ce que c'était le management bienveillant. Après, les conférences sont arrivées, parce que ce livre a vraiment cartonné. Et à un moment, je ne sais pas comment l'idée m'est venue, mais j'ai dû me réveiller un matin en me disant « Mais tiens, pourquoi tu ne ferais pas un podcast? T'adores parler. C'est un format qui est hyper facile à faire, parce que j'ai un passé de musicien aussi, donc j'ai tout le matériel à la maison, donc ça ne m'inquiétait pas. » Et voilà, je me suis lancé. Donc c'est une sorte de suite logique où je crois profondément qu'on n'est pas obligé de souffrir au travail. Et donc, ben, j'essaye de passer cette parole-là, quel que soit le support. Donc, si demain, il y a un nouveau support, probable que j'y sois.
Super. Donc, on te voit en hologramme bientôt quelque part.
Ah, va savoir. Va savoir.
Et alors, du coup, comment t'expliquerais le management bienveillant à quelqu'un qui n'y connaît rien?
Alors, ça s'explique en une phrase. Être un manager bienveillant, c'est ne jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose qu'on ne supporterait pas que son propre manager nous fasse. Voilà.
Très simple.
Exactement. Ouais.
ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse.
C'est très biblique, ouais. C'est très biblique comme concept, finalement. Ouais. Mais pourtant, c'est ça qui est fou, c'est simple. Et pourtant, on est numéro 2 mondial du burn-out en France. On est numéro 2 européen de l'absentéisme. Il y a un mal-être au travail en France qui est fou. Rien que je ne sais pas si vous le savez, mais une des premières causes de démotivation des salariés, c'est le fait que leur manager ne leur dise pas bonjour le matin. Non. Juste ça. Et on se dit, ah ouais, on part de loin quand même. Donc, on part de loin et à la fois, ce n'est pas très compliqué à changer.
Et ben justement, comme on en parle, quelles sont les pratiques de management que tu ne supportes vraiment pas et qu'on ne devrait en fait même pas appeler du management finalement ?
Oh bah les managers qui gueulent, les managers qui sont pas prêts à écouter la critique, les managers qui envoient des emails le week-end, le soir, les managers qui font des réunions à 18h30 le vendredi, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont du bon sens et qui pourtant sont encore présentes.
Mais est-ce que tu constates quand même aujourd'hui qu'on a une évolution côté management ? Est-ce qu'on va plus ou moins dans la bonne direction aujourd'hui ?
Ouais, on va dans la bonne direction, mais... Dans l'absolu, c'est pas parce que les entreprises deviennent sympas, c'est parce qu'elles arrivent plus à recruter. En fait, moi, je fais partie d'une génération, je suis beaucoup plus âgé que vous, mesdames, où j'ai entendu cette phrase, dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Mmh. Bah, grâce à la grande démission et à la baisse du chômage qui fait que, si t'es bac plus 5, que t'as moins de 35 ans, ou bac plus 2, que t'as moins de 35 ans, c'est le plein emploi déjà, dans les grandes agglomérations. Et les managers, il faut qu'ils se préparent à entendre de plus en plus souvent « Dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter. » Donc, la seule solution, c'est d'améliorer le management parce que dans plus de 50% des cas, on ne quitte pas un boulot, on quitte un manager. On démissionne parce qu'on n'en peut plus de cette personne qui nous met une boule au ventre quotidiennement. Donc, c'est un raisonnement très cynique finalement. Mais comme in fine, tout le monde a y gagné, j'ai envie de dire tant mieux.
Complètement. Donc, du coup, tu penses que les entreprises le font plus par... parce qu'elles sont un peu obligées de le faire, mais est-ce qu'il y a quand même des entreprises qui le font de bonne volonté ?
Avant la pandémie et avant la baisse du chômage, bien sûr qu'il y a des entreprises qui étaient bienveillantes. Alors ensuite, ça ne veut pas dire que tous les managers, je pense à Michelin par exemple, qui a une histoire autour, alors c'est au 19e siècle, on appelait ça le paternalisme, donc Michelin a été créé au 19e siècle, et déjà à l'époque, ils prenaient énormément de soins de leurs salariés. Mais ils ont continué, maintenant on appelle ça bienveillance, mais oui, bien sûr, heureusement qu'avant tout ça, il y avait des entreprises qui étaient attentives à ça. Je pense à Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, il disait déjà il y a plus de 15 ans, si tu veux que tes salariés prennent soin de ton entreprise, prends soin de tes salariés. Donc heureusement que c'était pas un enfer complet. Par contre, la culture française... et très spécifiquement française, est assez violente et ringarde d'un point de vue management.
Bah, du coup, justement, quel est le plus grand défi qu'on a à relever aujourd'hui pour les entreprises côté management ?
Former tous les managers. Mais vraiment, c'est un défi de formation, tout bêtement. Et peut-être aussi de libération de la parole. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font quelque chose que je trouve extraordinaire. Aujourd'hui, pour évaluer un manager, ça se passe une fois par an, pendant un entretien annuel, et le manager du manager lui demande « Alors, est-ce que tu es un bon manager ?» Il faudrait être sadomaso, donc le manager dit oui. Et est-ce que ça se passe bien avec ton équipe ? Ah ouais, super, il m'adore. C'est ce qu'on appelle de l'autocorrection. Intérêt zéro. De plus en plus d'entreprises, maintenant, tous les trimestres, c'est l'équipe qui évalue son manager sur 4-5 critères. Est-ce que mon manager est à ma disposition ? Est-ce qu'il m'écoute ? Est-ce qu'il est bienveillant avec moi ? Est-ce qu'il m'apprend des choses ? Et en fait, ça permet de faire un suivi manager par manager, non pas pour le punir, mais pour le former. Pour dire, écoute, ton équipe, elle n'a pas l'air de te trouver très très à l'écoute. Peut-être qu'on va te faire une formation sur comment est-ce qu'on écoute son équipe. La libération de la parole, je suis assez convaincu que c'est vraiment la clé.
Ouais, c'est la communication en fait.
Ouais, exactement. Mais une communication sincère et ouverte. Pas donner la parole. Je vois certaines entreprises qui font des baromètres du bien-être chaque année. Et à chaque fois, je dis, mais ok, mais vous avez fait quoi concrètement après ? Ah, donc voilà, et surtout les salariés ne savent pas ce qui se passe. Je crois que c'est important que les salariés sachent que l'entreprise travaille dans le sens d'un mieux-être au travail.
Qu'elles mettent vraiment tous leurs efforts dans cette direction, surtout.
Bien sûr. Mais tu sais, je me faisais la réflexion aujourd'hui, là c'est cet après-midi, je suis interviewé pour un journal économique, où on demandait de réfléchir sur la réforme de la retraite. Et en fait, je pense qu'on est, mais il y a un contresens sur cette réforme de dingue. Moi, je m'en fous si j'étais salarié encore. Je m'en foutrais de partir à 64 ou 66 ans, si jamais mon travail ne me pourrissait pas la vie. Regarde en Suède, ils partent à 65 ans, mais à 4h30, t'as plus personne dans les bureaux. Donc, ça serait peut-être bien de d'abord s'attaquer à la problématique du bien-être au travail avant de nous dire bah, « travaillez plus ». Il y a 2 millions, au moment où on se parle, 2,5 millions de salariés français qui sont en burn-out. Mmh. À ton avis, quand tu leur dis « Hey les gars, vous allez travailler 3 ans de plus bah, », t'as pas envie, on peut pas les blâmer. Et ils sont pas idiots. C'est juste, ils disent « Mais moi, je souffre le martyr en ce moment. Bah, non, je me vois pas travailler 3 ans de plus. » C'est légitime comme réaction. Mais en France, on s'attaque jamais à la problématique du bien-être au travail. Il aura fallu en 2008 la vague de suicide chez Renault et chez France Télécom pour qu'on parle enfin de qualité de vie au travail.
Ouais, c'est fou.
On est très, 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 très en retard. Et c'est pas un fantasme ce que je raconte. Il suffit d'aller voir en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Danemark, même en Angleterre. Ils sont nettement meilleurs que nous. Et économiquement, ils sont pas pires que nous. On peut pas dire que l'Allemagne, ça soit des grosses feignasses quand même.
Non, c'est clair. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'en France, on est autant en retard en fait ?
Mais parce que, je vais te poser une question indiscrète. Quel âge as-tu ?
J'ai 26 ans.
26 ans. Donc toi, tu fais partie d'une génération qui n'a presque pas connu le chômage de masse. En fait, depuis moi que je suis diplômé, j'ai été diplômé en 1992, je n'ai connu que le chômage de masse, que ça. Ce qui veut dire que même diplômé d'une très grande école de commerce, eh ben, on a galéré pour trouver du boulot. Donc on acceptait n'importe quoi, parce qu'il fallait qu'on bosse. Et on nous faisait bien comprendre que ben, t'es corvéable à merci, t'as pas le choix. Et on me faisait bien comprendre, bah, bien sûr que c'est normal de travailler jusqu'à 21h. Bien sûr que c'est normal. À partir du moment où tu as peur de perdre ton boulot, tu acceptes tout. Tu sais, c'est le principe de la pyramide de Maslow, tu as besoin d'avoir un salaire pour bouffer et te loger. Et moi, je me réjouis quand je vois mes enfants bah, qui commencent à rentrer sur le marché du travail, ils vont pas connaître ça, ils vont avoir le choix. Donc la pression et la peur à changer de camp. Et c'est juste génial.
Ok, et ça, ce chômage de masse, en fait, c'était essentiellement en France à cette époque en Europe ?
En fait, non, c'était une crise mondiale suite au choc pétrolier de 1974. Mais c'est vrai que la France n'a jamais réussi à le faire baisser. Il y a eu une petite embellie autour des années 2000, petite, jusqu'à l'explosion de la bulle Internet. Mais mis à part ça, enfin, on a connu des taux de chômage, je crois, je ne veux pas te dire de bêtises, à 11-12%. Mais forcément, le rapport au travail est différent. Et le rapport de force entreprise-salarié est différent. Donc là, il y a un changement de paradigme qui est très fort. Il est très violent, le mouvement de balancier est très violent du côté des salariés, et les entreprises s'en plaignent, et d'une certaine manière, elles ont raison, parce que c'est compliqué de ne pas pouvoir fidéliser les gens, mais il va revenir petit à petit au milieu, parce que les entreprises réalisent, bah oui, il faut changer la culture managériale, il faut changer le rapport au travail. Je crois profondément que le concept du « travailler plus pour gagner plus » ça appartient à un autre siècle, maintenant il s'agit de parler du « travailler mieux », enfin.
Ouais.
Et j'entends pas beaucoup de politiques parler du « travailler mieux ». Fondamentalement, voire aucun.
Travailler moins, mais mieux. Ça vous parle ? En tout cas, c'est la tendance qui semble se dessiner pour le marché du travail. On assiste à un changement de paradigme côté employabilité et sécurité de l'emploi. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé avec Karine Trihoulier, qui a comparé le cas de la France aux pratiques RH dans d'autres pays. Vous pouvez déjà l'imaginer, il y a quelques différences. L'occasion de s'inspirer de nos pays voisins et d'améliorer nos pratiques en termes de relations à l'emploi et au travail.
Dans le marché international, il faut distinguer, c'est clair, les marchés émergents des marchés matures. Après, la France a quelques particularités, et c'est marrant parce qu'elle reste. Mais là, je parle des grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, tout est quand même organisé autour encore de cette hiérarchie et de nombreuses strates et autour de la notion d'études. C'est encore prépondérant alors que ce soit sur des marchés émergents ou des marchés plus matures, l'état d'esprit sur le marché du travail est un peu plus ouvert. En fait, les gens, il y a une concurrence en fait. Il y a cette notion de concurrence entre des talents qui arrivent de partout, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, où l'âge est un peu moins important. Ce qui compte, c'est ce que tu résous comme problème. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, pour pas mal de grandes entreprises françaises, la porte d'entrée reste quand même le prestige des études, certains noms de sociétés. On en est encore là. Alors, on en est encore à recruter des gens qu'on souhaite intelligents, alors qu'on a besoin de gens qui résolvent les problèmes qu'on a au moment où on les recrute. Et je trouve que c'est encore très présent, ça. Et du coup, ça crée aussi un décalage chez les candidats quand ils vont sur d'autres marchés, parce que soit ils ont ce costume français, c'est-à-dire à la fois le diplôme, certaines croyances que ça va leur ouvrir certaines portes. Et à ce moment-là, ils ont un petit peu du mal à s'adapter parce que ça ne dit pas toujours grand-chose aux entreprises locales. C'est sur des marchés émergents comme des marchés plus matures, parce qu'il y a une autre concurrence en face. Et puis, soit ils n'ont pas ces diplômes et ils pensent que ça va être plus compliqué pour eux de s'intégrer à l'étranger, alors que l'expérience va être souvent plus importante que le diplôme en soi. Donc ça, c'est une différence que je vois qui reste, en fait. Donc je me dis que comme elle reste, parce qu'elle est très ancrée, à la fois dans les esprits côté employeur comme côté candidat ou talent. Donc je me dis que celle-ci, elle est un peu plus dure à dépasser. Mais il y a cette dimension-là, pour moi, qui est vraiment une différence très notable et qui est très visible quand tu es à l'étranger, parce que c'est très présent dans n'importe quel pays. Tu auras toujours les anciens de l'école, machin. Voilà, cette espèce de solidarité-là liée aux études qui est importante, qui participe du réseau, mais qui n'est pas une finalité, qui reste un moyen. Voilà, on a un peu du mal, on est assez traditionnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les langues. Ça aussi, c'est très ancré. On n'encourage pas beaucoup les langues. On n'encourage pas beaucoup la confiance en soi à utiliser d'autres langues. Et ça, c'est dommage parce que ça participe aussi de la compétition et de la concurrence. Donc moi, par rapport au monde du travail, c'est vraiment, voilà, ça c'est sur les diplômes et les langues. Après, le deuxième élément, c'est plus sur le droit du travail. En France, on est... contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit les manifs et tout ça, l'employé est quand même assez protégé par rapport à plein d'autres pays. Et en même temps, l'employeur également. Et je trouve que dans la relation de travail, on est encore d'abord beaucoup trop autour de se protéger d'un côté comme de l'autre. Et c'est important parce que c'est un peu comme la force de la France. Et c'est tellement une force, c'est tellement intégré que par moments, on l'utilise trop. C'est ce qu'on appelle en leadership les compétences overused. Et donc, on l'utilise trop et on voit toute situation de travail ou de désaccord ou de non-alignement au travers de ce prisme du droit du travail. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais à l'étranger, il n'est pas sur le devant. On est d'abord sur pourquoi fonctionner ensemble, qu'est-ce que ça va m'apporter, très rationnellement de chaque côté. Et après, bien sûr, quels sont mes droits ? Il y a un cadre, mais qui est moins développé. Donc, à la fois, l'étranger aurait besoin de s'inspirer énormément du cadre français parce qu'il y a plein de choses en droit du travail qui pêchent à l'étranger et qui ne protègent pas beaucoup. Et d'un autre côté, ça nous limite aussi, et surtout quand on va à l'étranger, parce qu'on voit beaucoup le travail comme un rapport de force. Et aujourd'hui, c'est plus un mode collaboratif, parfois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport de force, mais si ça ne va pas, tu t'en vas, quoi. Et si ça ne va pas et que tu t'en vas, tu sais que tu n'as droit à rien. C'est pour ça que les gens ont d'autres sources de revenus. C'est pour ça que les gens ont toujours des projets à côté. Et du coup, ça amène une responsabilisation des talents que je ne trouve pas forcément en France. Parce que c'est normal, les gens cotisent et donc ils s'attendent à avoir une retraite, à avoir du chômage. Donc du coup, ils ne pensent pas au jour où ça pourrait se passer un peu différemment, où ils pourraient être moins satisfaits.
Du coup, si on devait donner un petit coup de pouce aux entreprises françaises, selon toi, de quoi les entreprises françaises elles devraient s'inspirer à l'étranger ? La première fois qu'on a bavardé toutes les deux, tu m'as parlé de rapport au temps, de type de contrat, de transparence sur les salaires, de volontariat. Peut-être que tu peux donner quelques pistes à celles et ceux qui voudraient s'inspirer.
Alors, c'est vraiment le fait de faire plus confiance, voilà, d'être moins dans le contrôle et donc de faire plus confiance. Et il y a beaucoup de force en France autour de l'entrepreneuriat. Moi, je suis impressionnée par tout ce que je découvre là depuis quelques temps où je suis un peu plus au fait et un peu plus en France. Au niveau de l'entrepreneuriat, il y a une diversité de types d'entreprises, de start-up ou pas seulement. Il y a aussi des projets qui se montent et qui deviennent après une entreprise. Il y a aussi des auto-entrepreneurs qui réussissent à développer des activités en portant de très peu de choses au début. Donc, il y a une diversité dans l'entrepreneuriat que je ne retrouve pas forcément dans les grands groupes, hein, qui s'est diversifiée en termes de statut, en termes de modalités. Il n'y a plus que le modèle de l'entrepreneur qui crée X emplois, qui fait des levées de fonds. Il y a également d'autres modèles à côté de cela, de gens qui créent leur travail finalement et qui en sont satisfaits et qui arrivent à en vivre. Et puis, d'autre côté, il y a des grands groupes un peu plus résistants au changement et qui font preuve de moins d'agilité et qui finalement changent beaucoup moins. Et je pense que s'inspirer, pour les entreprises françaises, s'inspirer un peu plus de leur entrepreneuriat finalement interne, qui s'inspire aussi de ce qui se passe à l'étranger, ça les rendra plus attractifs, plus empathiques, et ça leur permettra de quelque chose qui manque un petit peu aujourd'hui, c'est, je trouve que parfois dans les grandes entreprises, il y a ce modèle de la carrière girafe. On fait comme si c'était encore le cas. Un employeur, c'est tellement important, t'en as pas 50 dans ta vie. Donc, il y a cette espèce de formalisme autour du recrutement, ce côté solennel, comme si c'était pas rentrer dans les ordres, mais un petit peu, si vous rejoignez notre entreprise, c'est comme s'il signait pour 10 ans ou 15 ans, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Et on continue à faire comme si c'était le cas. Et du coup, il y a un décalage parce que ce monde de l'entrepreneuriat agile, plus empathique, plus dans s'adapter en permanence à ce qui est là, à la fois au niveau business, mais à la fois au niveau des talents, ben, il devient encore plus attractif pour les talents que les grands groupes. Donc, pour moi, il y a un petit peu ce décalage-là. Et puis après, il y a qu'en France, on pense aussi que l'employeur n'est pas au même niveau que le salarié. Je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a pas cette transparence. L'employeur a beaucoup de mal à recruter, à faire confiance parce qu'il est face à beaucoup de mensonges parfois sur le CV ou autre chose. Et puis après, il y a des déconvenues une fois que la période d'essai débute. Et je crois que ça vient aussi du manque de transparence des employeurs. Donc, c'est comme s'il y avait deux parties, les talents et les employeurs qui n'arrivaient pas à se faire confiance parce que chacun essaye de dissimuler ce qui pourrait être des points sensibles. Alors que ces points sensibles, par exemple pour un candidat, ça peut être un manque d'expérience sur certaines choses ou un trou dans le CV, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est comme des tabous. Et puis du côté d'employeur, ça peut être quelques managers qui ont du mal à gérer leurs émotions, ça peut être un équilibre vie pro, vie personnelle qui est vraiment pas au top et sur lesquels il faut qu'ils travaillent. Moi, je pense que si des deux côtés, on arrivait davantage à se dire les choses, que ça soit moins tabou, qu'on fasse moins cette scène de théâtre là, eh ben la confiance reviendrait un peu et du coup on trouverait aussi plus de solutions.
Dans cette réflexion sur le rapport entre les talents et l'entreprise, dans les modèles classiques d'entreprise en France, on peut presque se demander si les entreprises elles achètent pas notre temps, nos compétences au final. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois aussi
et
est-ce
oui,
que c'est la chose à l'étranger?
C'est que il y a cette espèce. Alors c'est pas seulement en France, on en parle moins ouvertement. Mmh. On parle de manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. On parle de problèmes de santé mentale et c'est partout hein, ces problèmes-là. Seulement en France, on l'aborde un peu d'un point de vue juridique. Alors que juridique, c'est là pour sanctionner des mauvais comportements ou des comportements qui respectent pas les règles. Or, aujourd'hui, on n'en est pas là. Le but, ce n'est pas que les gens ne dérogent pas aux règles, c'est que les gens intègrent que la vie professionnelle ne doit pas être à l'origine de maladies mentales et de souffrances. On doit laisser le travail à sa juste place. Et pour moi, ce n'est pas juridiquement que ça se traite déjà en interne, en parlant ouvertement, en regardant, en trouvant des solutions, mais des deux côtés, en collaborant ensemble pour trouver des solutions. Si demain, les gens sont plus indépendants et ils vendent moins leur disponibilité, c'est-à-dire que quand tu as un CDI en France, quelque part, tu vends ton temps, mais il y a aussi l'idée que tu vends une disponibilité exclusive. Il y a de plus en plus de clauses d'exclusivité dans des contrats de travail pour des jobs où ça ne fait aucun sens. Mais comme l'employeur a compris que de plus en plus de talents avaient des projets sur le côté, d'autres sources de rémunération, ils ont peur que l'employé soit moins disponible, moins en forme pour performer chez eux. Donc, ils rajoutent ces clauses. Mais je trouve que ça va encore dans le sens de la méfiance. Si un employé décide d'avoir une source de revenus principale avec un employeur, il y a ce devoir de loyauté qui fait qu'il doit tout faire pour atteindre ses objectifs. Mais il y a aussi l'idée que s'il ne respecte pas un certain équilibre, il ne pourra pas non plus faire son complément de revenu. Ça ne va pas impacter que son travail. Donc, le fait de mettre aussi la responsabilité du talent chez lui, mais qu'en interne, il y a des process pour que les gens aient plus une vue globale de ce que chacun fait, eh ben, tout ça, ça va aller dans le sens d'un meilleur équilibre. Et la santé mentale, ce n'est pas l'affaire que de l'employeur ou que de l'employé. C'est quelque chose qui doit se travailler ensemble. Mais pour ça, les deux parties doivent avoir une responsabilité à égalité. Et donc, cette disponibilité à tout prix, laisse penser que quelque part, l'entreprise veut une exclusivité et que ça veut dire que parfois, s'ils ont besoin le week-end, ils veulent pouvoir solliciter l'employé. Ils n'aiment pas l'idée qu'il soit occupé sur un autre projet. Et ça, je pense que le malentendu part de là. Cette notion de CDI, elle est pas bonne parce qu'elle fait croire aux gens que les gens sont en sécurité, alors que ça, c'est pas vrai. Elle fait croire aux gens qu'ils vont toujours avoir assez d'argent pour maintenir un niveau d'achat en restant fidèle à cet employeur, alors que là, on le voit bien, il y a une inflation qui est supérieure aux augmentations. Eh ben, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut laisser l'espace aux talents de se responsabiliser aussi, de trouver d'autres sources de revenus, de gérer leur équilibre entre les deux vies pour pouvoir mettre aussi le travail à la bonne place. Mais l'employeur, pour ça, doit accepter de ne pas acheter un temps élastique comme ça, mais plutôt acheter des compétences à un moment donné et être plus clair sur sa demande et moins partir de son besoin. Parce que quand on achète une disponibilité, on part d'un besoin. Je ne sais pas encore quelles seront toutes mes demandes, mais j'achète ton temps. Et là-dedans, bah, toutes mes demandes, eh ben, tu dois les prendre. Et c'est un peu ça, pour moi, le concept sous-jacent de ce CDI et du temps disponible.
Bah, nous, à l'agence, on est en horaire flexible. On l'avait évoqué ensemble et du coup, notre temps n'est pas à disposition. C'est ça qui est super intéressant, c'est que tu travailles plus à l'objectif ou ce genre de fonctionnement qui ne te bloque pas au bureau. L'exemple type, tu finis à 17h alors que tu as fini tes tâches à 15h et tu dois rester assis là, faire semblant de travailler, ça n'a pas de sens, quoi.
Ça n'a pas de sens et ce qui compte, c'est que tu puisses résoudre le problème. Mm-mm. L'organisation, elle ne sera pas plus riche parce que chacun part à 20h. L'organisation, elle gagnera plus d'argent si chacun atteint ses objectifs. Et donc, on n'est pas sur les vraies problématiques pour moi.
Oui, tu n'interroges pas du tout le rapport à l'efficacité, à la productivité. Moi, depuis un horaire flexible, je m'interroge vraiment sur comment je peux être vraiment efficace pour profiter du reste de ma journée, mes objectifs.
Tu recherches ça.
C'est ça.
Tu recherches ça, donc du coup, ça fait monter aussi en compétence l'efficacité personnelle. Ouais. Ça fait monter aussi en fréquence le nombre d'échanges sur l'utilité d'une réunion. Et du coup, ça va dans le sens aussi de l'organisation. C'est pour ça que quand les gens, on leur fait confiance et qu'on leur met des objectifs clairs plutôt que toujours des trucs approximatifs, si on met des objectifs clairs, vraiment en travaillant sur la demande et pas le besoin, voilà ce que j'attends de toi. À ça, je verrai que tu l'as atteint. Et ben, c'est plus facile même pour le salarié de s'y retrouver et de fournir un résultat et d'y investir à la fois son talent mais aussi son sens de l'efficacité
et d'être motivé à le faire puisque
motivé, tu sais... exactement parce que ouais. C'est d'abord le résultat avant la présence
par rapport à l'employabilité avant la valeur d'un talent sur le marché c'était un peu l'entreprise dans laquelle tu travaillais qui faisait ta valeur et aujourd'hui on voit de plus en plus que la valeur d'un talent sur le marché c'est plus sa compréhension des besoins du marché et sa façon de se rendre employable, finalement.
Moi, c'est ce que j'observe à l'étranger. C'est vraiment ça. Il n'y a plus un type de parcours. Il y a plus de diversité dans les parcours. Et les parcours sont beaucoup construits autour de l'employabilité et de ce qui est demandé par les organisations et par ceux qui payent. Et c'est différent que de se promouvoir sur un nom de société. Par exemple, j'ai travaillé 12 ans dans un grand groupe et je viens vous voir aujourd'hui et votre poste m'intéresse. Je vois bien que ça convainc beaucoup moins parce que même si on a été nourri pendant 12 ans et qu'on a fait des jobs super intéressants avec des top projets, il n'en demeure pas moins qu'on est resté quand même dans une zone de confort. Ça ne veut pas dire que c'était facile. Bien sûr, chaque prise en responsabilité a occasionné du stress et des moments où il fallait se former, il fallait réfléchir à de nouveaux problèmes. Mais le fait de l'avoir toujours fait au sein d'une même société, ça réduit considérablement ta compréhension du marché, de la concurrence, du business et de diversité d'approches pour régler un type de problème. Donc, au niveau de l'employabilité, aujourd'hui, on ne peut plus se prévaloir « Ah, t'as bossé chez Accenture, ah, t'as bossé chez L'Oréal, bravo !» C'est pas qu'aujourd'hui, ça soit un défaut, hein, mais je veux dire, ce qui fait ton parcours, c'est ton expérience et ta capacité à t'adapter, surtout, et à te confronter à des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que l'approche où ta valeur, ton employabilité reposait sur les noms de sociétés par lesquelles tu étais passé, il y avait l'idée sous-jacente que dans ces grandes sociétés étaient présents la plupart des problèmes à résoudre du moment sur le secteur d'activité. Et donc, tu n'étais plus sujet à avoir été exposé à des best practices, des belles pratiques sur le marché. Aujourd'hui, on est tous confrontés, petits et grands, à des nouveaux problèmes. Donc, le fait d'avoir été dans une multinationale et d'avoir réglé des problèmes récurrents, ça n'aide pas forcément. Donc ça joue aussi là-dessus. Et en plus, quand on est resté beaucoup dans une évolution de promotion interne et de mobilité interne, au niveau du salaire, il y a un décalage au bout d'un moment aussi par rapport au marché. Si on est rentré au niveau du marché, par moment, selon les postes, c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Et certains postes, alors on peut perdre en alignement, mais pas seulement dans le sens avoir un salaire trop bas par rapport au marché. Parfois, on a un salaire trop haut par rapport au marché. Et c'est juste parce qu'on est monté en interne et qu'on est passé de tel grade à tel grade, il peut y avoir un décalage. Donc, c'est indispensable pour son employabilité d'aller régulièrement voir ce qui se passe en dehors de son entreprise et de ne pas s'installer dans une zone de confort où finalement l'évolution, elle est beaucoup fonction aussi des besoins de l'organisation et moins de ce que tu aimes faire toi, de ce que tu aimerais développer et de ce que les autres sont prêts à payer pour t'avoir chez eux.
Du coup, ça interroge la question des études aussi, qui est une partie très importante avant qu'on arrive sur le marché du travail. Pour du coup, les jeunes diplômés ou nouveaux talents qui arrivent sur le marché du travail, comme moi qui viens d'être diplômée, c'est quoi ton conseil pour qu'on trouve notre place dans un système du travail qui est quand même en pleine évolution et aussi de faire des choix qui nous permettent de nous épanouir sur le long terme?
C'est de regarder la vie professionnelle comme un ensemble de modules d'expérience qui soient simultanés ou séquentiels et d'arrêter de penser qu'il y a une place quelque part. Chacun doit se créer sa place et sa place, elle est plurielle et créer ses modules d'expérience en fonction de ses envies et aussi d'un marché qui offre des opportunités. Donc, c'est de se dire qu'il n'y a aucun moment où on peut vraiment se poser et se dire « Ah ouais, j'ai trouvé mon truc ». On peut quand même s'autoriser un petit peu, mais l'idée, c'est que c'est toujours en train de se faire. Donc, il faut dédramatiser un petit peu les premiers choix qui se font à la sortie d'études. Il faut normaliser le fait d'avoir fait des études. Aujourd'hui, des bacs plus 4, des bacs plus 5, c'est comme avant un peu le bac, quoi. Je suis un peu dure, mais c'est la concurrence, elle est très forte. Et il n'y a pas autant de postes, notamment dans les entreprises, qui nécessitent des bacs plus 4 et bacs plus 5 sur le management et tout ça, puisqu'on devrait avoir moins de managers et voilà. Et se dire que ce diplôme n'est qu'un point de départ pour de toute façon une vie professionnelle qui sera sous le signe du learning. On est passé de cette ère de la connaissance, du savoir, à une ère où ce qu'il faut, c'est des gens qui savent régulièrement apprendre, qui ont toujours cette curiosité d'apprendre. Et ça, l'école a du mal à te l'expliquer. Et donc, entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise, vraiment pour ceux qui débutent aujourd'hui, c'est de se prendre un petit sas de respiration là, et de se dire, bon, entre ce que me dit l'école et ce que l'entreprise me demande aujourd'hui, moi, j'ai envie de quoi? Et il n'y a pas qu'une façon de faire, d'évoluer professionnellement et il n'y a pas un choix qui va condamner toute ta vie professionnelle pour toujours, quoi. Donc, c'est de se dire, j'ai le droit de faire des tentatives, j'ai le droit de commencer des choses et de me rendre compte que je ne les aime plus et de passer à autre chose. Ce n'est pas un problème parce que de toute façon, j'aurai compris quelque chose qui peut me servir après. Donc, c'est de c'est d'accepter que le diplôme n'est pas une finalité et ta valeur sur le marché du travail, elle n'est pas que fonction de ton diplôme. Il y en a beaucoup qui, par exemple, j'en rencontre là beaucoup en ce moment, des ingénieurs, de jeunes ingénieurs qui s'ennuient beaucoup au travail, qui sont déçus. Ils ont fait prépa, ils en ont bavé pendant leurs études et puis là, ils commencent à travailler puis ils disent « mais tout ça pour ça, là, on me demande de faire ça au quotidien », ils sont super déçus parce qu'on leur fait faire au quotidien. Ils disent « non mais là, c'est pas possible, moi je pars pas pour 50 ans comme ça ». Donc ça les angoisse. Alors faut pas aussi, ça c'est l'idée que quand tu te lances après un diplôme, faut pas prendre tes premières expériences de stage ou de travail comme une vérité pour tout le monde du travail. Je sais que c'est dur parce que chaque expérience que nous avons envie de la généraliser, mais l'idée c'est d'être curieux et d'aller explorer et de trouver les ingrédients dans chaque type d'organisation, chaque type de mission, et de repérer ces ingrédients-là pour t'aider à te créer une place professionnelle dans laquelle tu décides, tu choisis, tu te formes en partant de toi et de ce que tu as envie de développer, et en partant pas toujours des besoins de l'autre, quoi. La dernière chose, c'est plus en réaction à... sur l'intelligence artificielle, sur le futur du travail. Je pense que, on ne sait pas trop, même à l'échelle de 2030, on voit quelques phrases un peu choc, comme quoi 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui, que des métiers vont disparaître, que beaucoup de choses vont être automatisées, et puis les gens pensent à la caissière ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de phrases un peu, d'images qui, comme à l'époque 2000, on allait se nourrir de pilules. C'est un procédé humain normal de se projeter comme ça avec des images fortes, mais je les trouve toujours assez négatives et assez pessimistes. Et je pense qu'il faut prendre ça comme la révolution industrielle, comme une ère où il y aura du bien, il y aura du moins bien, mais il y aura aussi des choses intéressantes. L'idée d'avoir de nouveaux métiers, de pouvoir apprendre des nouvelles choses, c'est très rafraîchissant. Et il n'y aura pas que des suppressions d'emplois. Et l'idée de se recentrer sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée, qui font plus de sens, mais c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc, je pense que ce futur du travail, même si on ne sait pas tout, il faut être un peu plus confiant. Et chacun doit s'y préparer dès aujourd'hui en s'enseignant un peu sur son domaine, en regardant ce qu'il a envie d'apprendre, qu'il ne sait pas encore, et exercer ce qu'on appelle l'optimisme, qui est une grande compétence d'intelligence émotionnelle. Voilà.
On ne sait pas pour vous, mais cet échange avec Karine nous a donné beaucoup d'espoir. En tout cas, nous, on voit clairement cette tendance se dessiner et on est ravis. Après, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais vu la vitesse à laquelle le monde évolue, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Nous, en tout cas, on est optimistes. Comme d'habitude. Notre deuxième épisode touche à sa fin. Après le premier épisode, il permet de poser les bases de cette série. On comprend mieux les enjeux auxquels les entreprises vont devoir répondre si elles veulent continuer à exister demain. Et des défis, il y en a de sacrément gros à relever. Revoir le modèle de l'entreprise, son fonctionnement interne, notamment côté management et gestion des talents, sans compter sa manière de communiquer avec toutes ses parties prenantes. Ça peut sembler assez faramineux, on vous l'accorde. Mais c'est loin d'être impossible. Certaines entreprises s'en sortent d'ailleurs plutôt très bien. On a interrogé quelques-unes d'entre elles dans cette série. Mais avant de vous partager leurs expériences, on vous propose un petit tour côté législation. Parce que la loi peut vraiment vous aider à comprendre et identifier les premiers jalons à poser. Sans compter les autres organismes qui viennent l'enrichir et poussent l'action encore plus loin. On vous parle de tout ça dans notre prochain épisode, le cadre législatif et déontologique autour de l'entreprise de demain.